Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Hillary Clinton n'est pas en bonne santé, elle souffre de dysphasie. Les pires attaques circulent depuis quelques heures outre-Atlantique, elles émanent du camp Trump. Son adversaire républicain pour la présidentielle américaine s'en prend aussi à la fondation caritative Clinton, qu'il accuse d'être un moyen de trafic d'influence. En Irak, reprendre Mossoul, la deuxième ville du pays des mains de l'organisation État islamique, est l'objectif en cours depuis des mois. Une bataille importante a commencé ce matin à une soixantaine de kilomètres de là. Nous appellerons notre correspondante Oriane Verdier. Le sentiment anti-migrant savamment entretenu par les dirigeants de quatre pays de l'Union européenne, les membres du groupe de Visegrad, l'alimente en le transformant en islamophobie. Thomas Schoener nous relatera la dernière sortie du Premier ministre tchèque contre les musulmans. En France, nous parlerons de la rentrée politique, pas celle de Nicolas Sarkozy hier, mais celle du NPA et des écologistes, avec une nouvelle candidature ce soir à la primaire verte, celle de l'eurodéputé Karima Deli. Et puis le dossier de cette édition, la destination France, fait beaucoup moins recette. La capitale a perdu 1 million de visiteurs depuis le début de l'année, 7% de touristes en moins en France, des mauvais chiffres sur lesquels nous reviendrons avec Marie Vienno. Aux États-Unis, la santé de la candidate démocrate Hillary Clinton est devenue le nouvel angle d'attaque du camp Trump. Elle a 68 ans, son adversaire républicain 70, et les pires théories du complot sont reprises pour lui nuire, photo à l'appui par des élus républicains. Notre correspondant à Washington, Frédéric Carbone.
Depuis l'accident de 2012, cette commotion cérébrale au terme de 4 années intenses au département d'État, la santé d'Hillary Clinton fait l'objet des rumeurs les plus alarmistes sur Internet et dans les tabloïds américains. Ce sont donc ces spéculations que l'entourage de Donald Trump reprend. Le candidat lui-même reste dans l'insinuation, mais ses proches sont plus directs, à l'image de Rudy Giuliani. Je la trouve fatiguée, elle a l'air malade et les médias traditionnels n'en parlent pas, dénonce l'ancien maire de New York. Allez-vous faire votre propre idée sur Internet? Sur le site Breitbart, par exemple, qui affirme que la santé d'Hillary Clinton devient un sujet essentiel dans la campagne. Comme par hasard, le directeur de ce site d'information vient d'intégrer l'équipe Trump. Dans une émission de divertissement, la candidate démocrate est donc invitée à répondre.
Take my pulse while I'm talking to you.
Okay.
Prenez mon pouls, lance-t-elle à l'animateur. Regardez, tout va bien. Plus sérieusement, son médecin personnel a plusieurs fois précisé que l'accident n'avait laissé aucune séquelle. Quant à Donald Trump, il a rendu public un communiqué de son docteur affirmant qu'il serait le président le plus en forme de l'histoire des États-Unis. À 70 ans, il serait en tout cas le plus âgé.
Frédéric Carbone à Washington. Et quand ce n'est pas la santé d'Hillary Clinton, le camp Trump accuse la fondation Clinton d'être un moyen de trafic d'influence, une fondation caritative où les riches donateurs obtiennent des faveurs du département d'État selon le candidat républicain. En Irak, l'offensive des forces armées a toujours pour objectif depuis des mois de déloger l'organisation État islamique de son fief irakien de Mossoul. Depuis ce matin, la bataille a commencé à 60 km de là, dans la ville de Kayara, considérée comme le dernier gros obstacle avant Mossoul, la ville du Nord, une ville aux mains de Daesh depuis 2 ans. Erbil, récit de notre correspondante Oriane Verdier.
Après une journée d'intenses combats, l'armée irakienne est arrivée à libérer environ 90% de Kayara. Les forces spéciales ont notamment repris le contrôle de puits de pétrole, du bazar central et de l'hôpital. Mais les militaires tentent encore de neutraliser quelques points de la ville où les combats continuent. L'assaut a été lancé ce matin à 5h. Les militaires ont fait face à une forte résistance. Durant toute la journée, les avions de la coalition internationale ont appuyé l'offensive terrestre. Mais le porte-parole des forces spéciales irakiennes a également précisé avoir reçu l'aide de civils armés résidant dans le centre-ville de Kayara. Selon le maire, environ 15 000 personnes vivaient encore sous l'autorité de l'organisation État islamique. Au-delà de l'enjeu humanitaire, la reprise de Kayara permet également de reprendre le contrôle de la dernière zone urbaine qui séparait l'armée irakienne des abords de la grande ville de Mossoul. Kayara devrait devenir la rampe de lancement de l'offensive sur la ville même de Mossoul. En avançant par le sud, l'armée resserre petit à petit le front. Les forces kurdes, elles, entourent la capitale autoproclamée de l'organisation État islamique par le sud, le nord et l'est. Enfin, l'offensive d'aujourd'hui va permettre d'isoler la deuxième ville du pays, Dawija, plus au sud, une poche forte de l'organisation État islamique.
Notre correspondante Oriane Verdier à Erbil, en Syrie, dans le nord-est du pays. Le calme est revenu dans la ville d'Asaké après une semaine de violents combats entre, fait inédit, des forces kurdes et le régime. Des forces de Bachar seulement concentrées au centre dans les bâtiments gouvernementaux qui ont subi une lourde défaite. Les Kurdes, eux, contrôlaient 90% de la ville hier soir. Un accord de cessez-le-feu vient d'être conclu sous les auspices des responsables militaires russes. Un lieu qui continue en revanche d'être un lieu de combat dans ce nord syrien, la ville proche de la frontière turque de Jarablus, aux mains de l'organisation État islamique. Les Turcs promettent de tout faire ce soir pour aider les rebelles syriens à reprendre cette ville. Ces rebelles y préparent une offensive depuis hier et aujourd'hui encore. Les Turcs pilonnent la cité. En Europe, à l'Est, le sentiment anti-migrant est savamment entretenu par les dirigeants politiques. Dernier exemple en date, ce matin dans un quotidien, les propos du premier ministre tchèque qui ne veut pas d'une forte communauté musulmane dans son pays. Une sortie qui ne doit rien au hasard. Dans deux jours, il reçoit la chancelière allemande Angela Merkel. Bonsoir Thomas Schoener.
Bonsoir Ludovic.
La République tchèque est opposée au quota imposé par l'Union européenne pour la répartition des migrants, une position partagée par les quatre pays du groupe qu'on appelle groupe de Visegrad, avec la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne. Ils s'organisent contre ce qu'ils voient comme un diktat.
Et oui, et ces quatre de Visegrad comptent bien profiter du prochain sommet de l'Union européenne pour redire leur opposition à ces quotas. Ce sommet se tient mi-septembre à Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Le pays assure en ce moment d'ailleurs la présidence tournante de l'Union européenne. Et son premier ministre, Robert Fico, avait déclaré fin mai à propos de l'accueil des réfugiés, je cite, « l'islam n'a pas sa place en Slovaquie ». Robert Fico est celui qui se montre le plus virulent aux côtés de Viktor Orban, le premier ministre hongrois. La Hongrie qui a annoncé la tenue d'un référendum début octobre pour contrer ces quotas européens avec cette question tendancieuse. Souhaitez-vous que l'Union européenne soit habilitée à prescrire l'installation de citoyens non hongrois sans le consentement du Parlement. Le premier ministre tchèque, lui, est sans doute le plus modéré. Pour lui, l'accueil des réfugiés pose un problème d'un point de vue sécuritaire. En revanche, dans son interview aujourd'hui, il tient à mettre en garde contre l'amalgame fait entre réfugiés et terroristes, un raccourci qui, pour le coup, ne fait pas peur à Viktor Orban. Au-delà de la question des réfugiés, les quatre de Visegrad partagent cette vision d'une Union européenne qui n'a pas à décider à la place des États membres. Ils doivent bénéficier de la souveraineté quant à la décision sur le nombre des réfugiés, déclare dans son interview Bohuslav Sobotka, le premier ministre tchèque. Plus de souveraineté nationale au sein de l'UE, c'est la réponse du groupe de Visegrad après le vote britannique en faveur du Brexit. Une position que défendront là aussi les quatre pays lors du sommet de Bratislava.
Thomas Schoener, un autre débat européen. L'initiative est franco-allemande. Sur fond de lutte contre le terrorisme, les ministres de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et Thomas de Maizière demandent à l'Europe d'agir pour encadrer juridiquement les réseaux cryptés, notamment la messagerie russe Telegram, très prisée des djihadistes. Les touristes ont massivement zappé la destination France. Le nombre d'étrangers en visite chute de 7% depuis le début de l'année. C'est le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault qui l'annonce. La baisse est encore plus forte à Paris. 11% de nuitées en moins sur les 6 premiers mois de l'année. D'où l'appel au pouvoir public lancé aujourd'hui par le comité régional du tourisme en Ile-de-France. Marie Viennot.
Oui, alors Paris et la région Île-de-France restent tout de même la première destination touristique mondiale. Mais c'est vrai, il y a un renversement de tendance inédit entre le début de cette année et celui de l'année dernière. La fréquentation hôtelière est en baisse, quels que soient les établissements, palaces ou sans étoiles. Baisse de 6% sur la région et vous le disiez, de 11% Paris intramuros. Les touristes ont donc tendance à contourner la capitale. Alors peut-être qu'une partie d'entre eux utilisent aussi les autres formes d'hébergement chez les particuliers, mais cela ne peut pas expliquer seul la perte d'un million de touristes enregistrés par les hôtels de la région. Alors ce sont surtout les touristes japonais qui ont le plus manqué à l'appel cette année, 126 000 de moins, en deux viennent les Italiens, puis les Chinois avec 100 000 touristes en moins. Alors Frédéric Valtou est président du comité régional du tourisme, maire de Fontainebleau, il ne va pas jusqu'à parler d'anus horribilis, mais pas loin.
Le printemps s'est pas bien passé au niveau de l'image donnée de Paris et notamment liée au conflit social. Même si l'euro s'est bien passé, ça a eu un effet neutre sur la fréquentation touristique. Et puis, il y a eu les attentats de Bruxelles, puis de Nice cet été, qui ont fait que, voilà, le risque attentat continue à être là. Et les touristes continuent à nous renvoyer cette question-là. mais plus profondément cette question de la sécurité, parce qu'au-delà du risque d'attentat, il y a la question de la sécurité, et ce qui peut paraître pour nous des faits divers, ces Chinois qui ont été volés à leur hôtel, ou ces Coréens qui ont été tabassés parce qu'ils se sont perdus à Saint-Denis, je peux vous dire que dans les médias de ces pays, ces histoires-là ont reçu un écho important, et ça ne participe pas à donner une image sécurisée de la destination parisienne. Et puis il faut voir aussi, c'est que le seul fait d'être en état d'urgence, la France est classée comme une destination à risque. C'est le cas en Corée, c'est mécanique. Il faut se rappeler que 3 semaines avant l'euro, le département d'État américain avait lancé une alerte auprès des ressortissants américains pour leur dire d'éviter la France pendant l'euro. Bon, ils se sont trompés, l'euro s'est très bien passé, tant mieux. Mais on voit bien qu'il y a une appréhension parce que l'état d'urgence, c'est pas toujours bien compris quand on est à l'autre bout du monde.
Alors on ne connaît pas encore les chiffres des mois de juillet et août, mais on sait déjà qu'ils ne seront pas bons car après les attentats de Nice, il y a eu encore plus d'annulations qu'auparavant.
Et c'est depuis le Val-de-Loire, une destination touristique française très prisée, que Jean-Marc Ayrault évoquait tout à l'heure, Marie, les difficultés de ce secteur. Il promet dans les prochains jours, début septembre, une réunion d'un comité d'urgence. Mais que peut faire l'État ?
Alors le tourisme apporte à la France plus de 7% de son PIB. C'est donc un secteur clé. Au printemps, le gouvernement a déjà débloqué 1 million d'euros pour des actions ciblées sur l'irréputation de la France. Une campagne de communication a été lancée. D'autres fonds vont être débloqués. Ce matin, le comité régional d'Île-de-France réclamait également des mesures ciblées pour les entreprises en difficulté et, plus compliquées, des résultats tangibles en matière de sécurité.
Merci Marie Viennot. Le gouvernement annonce une baisse de l'impôt sur les sociétés pour les PME à 28% contre 33,3% aujourd'hui. Une baisse réclamée par 3 organisations patronales, dont le MEDEF, mais qui ce soir parle d'une demi-mesure qui ne ciblerait qu'une partie des PME. Dans l'affrontement entre les éleveurs, producteurs laitiers et le numéro 1 mondial Lactalis, la possibilité d'une médiation se présente pour après-demain, réunion à Paris, alors que depuis hier soir, 250 à 300 éleveurs se relaient avec leurs tracteurs, leurs vaches et leurs remorques devant le siège de l'entreprise en Mayenne, à Laval, pour exiger que le lait soit acheté au juste prix. Ils bloquent ainsi toute sortie de camion. Après la validation hier par le tribunal administratif de Nice de l'arrêté dit anti-Burkini pris à Villeneuve-Loubet au début du mois dans les Alpes-Maritimes, la Ligue des droits de l'homme a fait appel, c'est à présent au Conseil d'État de se prononcer. On l'a appris tout à l'heure, la plus haute juridiction administrative française se réunira jeudi après-demain, donc elle aura pour tâche de fixer la jurisprudence à suivre sur tout le territoire français. La rentrée politique pour le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, réuni ce soir près de Perpignan, à Port-le-Cat précisément, pour son université d'été. Pas de primaire au NPA, le candidat est tout désigné, le même qu'en 2012. Il s'appelle Philippe Poutou, il est ce soir au micro de Laurence Perron.
Ce monde pourri, on veut le changer. Et donc on n'est pas du tout sur le même terrain que sur lequel peuvent se trouver Montebourg ou Duflot. Donc nous, on parle d'une gauche, mais d'une vraie gauche, du combat et du combat de rue contre le capitalisme. Bah, on a intérêt à faire de la politique, on a intérêt à nous discuter de la société, de comment elle est organisée, de ce qui se passe, de notre pauvreté, de la précarité, de la destruction des services publics, de la destruction de la planète, et comment on peut se défendre. Et ce n'est pas le personnel politique existant aujourd'hui, au pouvoir ou qui peut l'être demain, qui va changer les choses. Donc c'est déterminant. Après, la question, c'est comment on rend crédible cette perspective-là. Et c'est un peu le problème auquel on est confronté.
Est-ce que finalement le grand échec de la gauche anticapitaliste, c'est pas ça ? De ne pas avoir réussi à parler à toutes ces classes populaires ou autres qui aujourd'hui choisissent une offre politique du côté du Front National ?
Ah ben c'est sûr qu'on peut se reprocher ça, c'est de ne pas être capable de convaincre. Voilà, parce qu'on peut toujours se plaindre, voilà, on est petit, minoritaire, et donc du coup, ben, quand on est petit et minoritaire, eh ben, on a les lois qui ne sont pas du tout démocratiques au niveau des élections, qui nous handicapent encore un peu plus, et on a l'impression que c'est un cycle sans fin, c'est que tant qu'on est minoritaire, eh ben, on va rester minoritaire, et on s'enfonce même dans un truc un peu à contre-courant, donc on peut se le reprocher, il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, certainement, et c'est quand même difficile d'essayer d'expliquer ou de convaincre de l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, une société vraiment démocratique, ou une société où justement il n'y aurait pas de... où l'économie serait dirigée collectivement, bon, ben, ça relève d'une utopie. Et c'est toujours plus difficile évidemment de convaincre de l'inverse, enfin de convaincre que c'est possible de changer le monde.
Philippe Poutou, le candidat à la présidentielle pour le nouveau parti anticapitaliste. Une primaire à venir en revanche, ce sera chez les écologistes, après Cécile Duflot la semaine dernière. Une nouvelle candidate se déclare ce soir, Karima Delli, députée européenne. Elle l'annonce dans un mail aux militants sur le chemin de la présidentielle. Elle est prête à mener et remporter cette bataille au mois d'octobre.
Cette décision, tout simplement parce que les Français sont écolos, mais ils nous boudent. Alors moi, ma candidature, elle est simple. Moi, je veux faire aimer à nouveau l'écologie. Moi, je veux mettre l'urgence climatique et la question environnementale au cœur de mon projet, parce qu'il n'est plus possible pour ma génération qui est élevée aux pesticides, au Nutella, qui va vraiment subir toutes les conséquences du dérèglement climatique.
Vous disiez que les Français ont une sensibilité écologiste, mais qu'ils boudaient le parti écologiste, le parti des Verts. À votre avis, pourquoi ?
Mm-hmm. Je crois qu'on a perdu trop de temps dans les divisions, on a perdu trop de temps dans les tergiversations, on a perdu trop de temps pour notre manque de clarté politique, qui a conduit notre base électorale à nous tourner le dos. On ne peut pas un jour être dans le gouvernement, on ne peut pas un jour... Le temps est venu de tourner la page à cette période, le temps est venu de mettre fin à la tactique sans stratégie, le temps est venu de dire que c'est l'addition qui prime sur la division.
Karima Deli répondait à Frédéric Seyss enfin sur ce chapitre politique à droite. Maintenant que les Républicains ont vu leur président Nicolas Sarkozy se lancer hier dans la primaire du mois de novembre, il a bien fallu réorganiser le parti. C'est le vice-président Laurent Wauquiez qui prend assez logiquement la direction du parti. Un mot de météo, vigilance, orange, canicule pour 14 départements dont toute l'Île-de-France, l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Marne, le Nord et Lyon. Le temps de demain, mercredi 24 août, s'annonce donc tout aussi ensoleillé et aussi chaud qu'aujourd'hui. Édition réalisée avec François-Charles Demergue. Prochain journal, Stanislas Vazac, ce sera à 22h.